si vous n'avez pas l'évangile de Saint-Marc, n'hésitez pas, madame. Je crois que c'est vous. C'est Guichard. Ah, très bien. Non. Ah, je sais pas si il y en a qui le souhaitent ou. On va essayer de suivre plusieurs. Bon, il reste un évangile. Avant de commencer sur des choses plus spirituelles, pour les pèlerins de Terre Sainte, donc j'ai envoyé le mail pour les personnes qui souhaiteraient acquérir le guide pour lire en avance et se préparer en avance. Donc, si certains n'ont pas répondu par mail et souhaitent le guide, qu'ils n'hésitent pas à profiter de cette soirée pour me dire, genre maintenant, par exemple. Genre tout de suite. Très bien. Ça c'est bien. Très bien. Ah, mais les affaires marchent bien, ouais. Très bien. Et alors, c'est pas maintenant, mais si vous voulez aussi vous inscrire aux récollections de l'Avent, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et comme ça, je le note.
Moi, je viendrai me laver aux récollections.
Mais alors, peut-être pas, peut-être là plutôt après le. Après. Alors, j'ai pas donné le prix du guide dans mon mail, mais parce qu'il était normalement dans votre dossier d'inscription, normalement il est à 18 euros ce guide. Alors, vous pouvez le trouver d'occasion sur internet un peu moins cher ou beaucoup plus cher, parce qu'il est parfois à 60 euros sur certains sites, voire 300 euros sur un site. Donc, je pense qu'il y a, eux, il y a des gens, je sais pas comment ils pensent que ça va partir à 300 euros. Je ne l'ai pas terminé, mais en tout cas, ce que j'en ai lu est vraiment bien. Alors, les fois précédentes, nous avions présenté l'évangile de Saint-Marc, nous avions présenté le premier verset de l'évangile de Saint-Marc, qui est à la fois le titre, Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et nous avions dit aussi que c'était une ébauche de plan, puisque la première partie de l'évangile se termine par l'affirmation de Jésus comme Christ, comme Messie, dans la bouche de Saint-Pierre, et que la deuxième partie de l'évangile se termine par l'affirmation de Jésus, Fils de Dieu, dans la bouche du centurion. Nous avions vu ensuite cette première scène du baptême qui lance l'évangile de Saint-Marc, et nous avons dit comment justement cette scène réalise ce qui est compris dans le titre, comment Jésus est présenté comme le Christ à travers l'accomplissement des prophéties, notamment d'Isaïe et de Malachie, comment Saint Jean-Baptiste se présente comme le nouvel Élie qui doit précéder la venue du Messie, et comment Jésus est présenté comme fils de Dieu par le Père lui-même lorsqu'il sort du Jourdain. Ensuite, il y avait ce diptyque, Jésus qui combat le démon, qui est servi par les anges, qui affirme son autorité sur les bêtes sauvages, et ensuite, à Capharnaüm, Jésus qui combat les esprits démoniaques, qui est servi par la belle-mère de Simon et qui affirme son autorité puisqu'il enseigne avec autorité dans la synagogue. Donc, il y avait ce parallèle dans cette scène inaugurale, dans ce diptyque inaugural entre Jésus au désert, combattant le démon, servi par les anges, ayant autorité sur les bêtes sauvages, et Jésus dans la synagogue de Capharnaüm, donc, qui combat les esprits impurs et servi ensuite par la belle-mère de Simon et à autorité auprès des hommes par sa parole. Et donc nous allons continuer, rentrer dans un peu plus le vif du sujet, et en tout cas le vif de cette confrontation qui va désormais monter entre Jésus et les pharisiens, puisqu'à mesure que Jésus va se présenter de façon subtile mais très claire, à mesure que Jésus va se présenter comme le Fils de Dieu, vraiment avec ce que ce titre a de plus vrai, de plus fort, de plus profond, eh bien, plus Jésus va se présenter comme le Fils de Dieu, plus l'opposition des pharisiens va croître, et c'est ce que nous allons voir tout spécialement aujourd'hui. Est-ce que vous aviez des questions déjà sur ce qu'on avait vu avant? Alors, nous reprenons là où nous étions arrêtés. Nous étions arrêtés donc au verset 39 du premier chapitre. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Donc, c'était une phrase au verset 39 qui faisait un peu conclusion de cette première partie, qui rappelait le ministère de Jésus dans toute la Galilée avec ses deux grands piliers. La prédication de la parole avec autorité et le combat spirituel. Et donc maintenant nous rentrons dans une autre partie. Donc on est au verset 40. Un lépreux vient auprès de lui. Il le supplie et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer, à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnent en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés? Ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau le long de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'ils mangeaient avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment ? Ils mangent avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, ses disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Mais des jours viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres, à vin nouveau, outre neuf vins. On s'arrête là pour l'instant. On peut prendre quelques instants pour relire. Je vous rappelle qu'il y a un dernier évangile pour ceux qui veulent relire qui est là. Pour relire, pour méditer ce long passage, mais qui a toute sa cohérence. C'est pour ça que je l'ai lu jusque-là. Donc je parle, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé, que vous n'avez pas peut-être comprises, qui vous choquent, qui vous surprennent, qui vous touchent dans ce qui vient d'être lu?
Dans le verset 41, là, donc c'est dans la compassion, Jésus, et là dans la Bible, vous savez, Jésus, voilà, il est en colère.
Oui.
On peut tout parler, en fait, là. Ça peut être des fois une interprétation un peu difficile.
Oui, alors c'est sûr que je lisais effectivement la Bible chrétienne cet après-midi pour préparer, et la Bible chrétienne, qui est une édition vraiment très très pointue, s'étonnait que effectivement certains traducteurs traduisent par la colère, alors que vraiment c'est un mot assez connu qui signifie que Jésus est remué dans ses entrailles. Alors il y a vraiment cette dimension d'entrailles. Alors, c'est sûr qu'on peut être remué dans ses entrailles par la colère, et c'est vrai que ensuite il va le reprendre assez fermement pour les dire de se taire. Mais je pense que c'est quand même une erreur de traduction que de faire le lien entre le fait d'être remué dans ses entrailles et l'indication très ferme que Jésus donne après. Parce que là, au moment où Jésus est remué dans ses entrailles, avant la guérison, avant la purification, c'est vraiment remué de miséricorde, et ouais, c'est un terme qu'on retrouve à plusieurs reprises, quand le Christ est pris de compassion devant la foule qui l'a suivi et qui n'a pas mangé, ou quand le père du fils prodigue, il me semble aussi, est saisi de compassion. C'est ce même terme qu'on retrouve également dans le chant de Saint Zacharie, quand Zacharie dit que justement Dieu nous a visités par la tendresse de son cœur. En fait, il dit vraiment par la tendresse de ses entrailles, donc c'est quand même voilà, un terme qui normalement penche plutôt du côté de la compassion et de la tendresse que de la colère. Donc c'est à mon avis sinon une erreur. Maria. Pardon.
Il y a aussi la possibilité que Jésus dise aux épaules justement, c'est pas le bon moment, c'est pas maintenant qu'il faut annoncer. Parce qu'après il le dit garde soi de rien dire à personne. C'est-à-dire que pour le moment, il le reprend aussi pour lui dire c'est pas le bon moment pour avancer la suite.
Ouais. Et c'est vrai, je pense qu'il y a certaines traductions qui font un petit peu la jonction des deux, mais à mon sens, c'est une erreur, au sens où il y a vraiment deux réactions différentes du Christ par rapport aux lépreux. Il y a d'abord cette réaction de miséricorde, de compassion, que le Christ éprouve aussi devant le tombeau de Lazare, donc cette idée vraiment de ce bouleversement du Christ devant le spectacle du mal, que ce soit le spectacle de la maladie ou le spectacle de la mort, et devant cet homme voilà, qui est en plus très croyant, quand même, qui vient lui demander cette guérison. Donc le Christ est vraiment ému de compassion, et il le touche. Je pense que c'est important, hein, important de noter que le Christ, avant même de le purifier, le touche. Et donc, vraiment, que cette miséricorde, c'est pas seulement je te guéris de loin, par ma parole je te guéris, mais avant même de le purifier, alors qu'il est encore malade, alors qu'il a sans doute un aspect assez repoussant, le Christ, justement, pour exprimer cette compassion, d'abord le touche, et rien que le fait de le toucher, déjà le rétablit dans cette humanité, en disant, je ne te considère pas comme quelqu'un dont il faut absolument s'éloigner, et quelqu'un qui est chassé de la société des hommes. Déjà, je te rétablis dans ta dignité humaine avant de te rétablir dans ta guérison. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment ce premier moment du Christ. Et puis, il y a le deuxième moment où, effectivement, dans Saint Marc, ça revient à plusieurs reprises, où le Christ veut que soit conservé un certain secret messianique, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que les gens viennent à lui uniquement pour les miracles réalisés d'une façon un petit peu curieuse, quoi, comme une attraction, et il ne veut surtout pas que les gens viennent aussi avec une fausse idée du Messie, comme il y a beaucoup à l'époque, d'un Messie qui va être libérateur d'Israël, d'un Messie plus guerrier. Et donc le Christ veut se laisser, en fait, la responsabilité de se présenter comme Messie, mais il ne veut pas tellement que d'autres, qui pourraient, même dans leur enthousiasme, pas forcément avec une mauvaise conscience, mais peut-être maladroitement, déforment en fait son message et sa personne. Donc c'est chez saint Marc, ce secret messianique, c'est un peu cette idée que le Christ se réserve d'abord le privilège, l'exclusivité de se présenter. Il ne veut pas tellement que les autres le fassent pour lui.
Dans les versets précédents, il est d'abord reconnu par les démons. En fait.
Oui, alors.
Parce que la jonction entre le début, c'est les démons, ensuite, c'est les.
Et du coup, les démons, d'ailleurs, lui obéissent davantage que les lépreux. Parce que les démons, finalement, Jésus les fait taire, alors que le lépreux, bon, ben voilà, il ne va pas non plus, leur donner la lettre pour l'écarter de la ville et qu'il puisse rien dire. Donc, bon, ben voilà, le Christ lui donne une consigne. Bon, il ne la suit pas, et en même temps, ben, malgré tout, le Christ fait son œuvre. Même à travers cette désobéissance, comme souvent Dieu fait son œuvre à travers aussi nos propres désobéissances et nos propres maladresses. Et donc là, le Christ lui dit, ne parle pas, l'autre va parler, les foules vont quand même venir, et le Christ va aussi user de ça pour toucher les hommes. Mais, vous voyez, malgré tout, le fait que le lépreux parle, à vue humaine, en tout cas, est un peu un frein finalement à la posture du Christ, puisque il peut même plus rentrer dans les villes, quoi. Donc,
il dit si tu le veux. C'est comme si tu le veux. C'est ce que Jésus parle sur le nom de son père. Hein, parce que donc, je suis le nom de son père. Donc c'est vrai que c'est peut-être que Jésus peut le prendre mal aussi, si tu le veux.
Non, c'est plutôt beau. C'est vraiment dire, je sais que tu as le pouvoir de me guérir, donc il y a quand même un très bel acte de foi derrière. Donc tu as le pouvoir, si tu en as aussi le vouloir, ben, tu vas me purifier. Je pense que c'est un bel acte de foi. C'est un bel acte d'obéissance, mais c'est un bel acte de foi. Maria, oui, il y a quelque chose. Non, c'est un peu pour les trois à la fois. C'est-à-dire que, effectivement, Jésus va prendre ce titre, souvent de Fils de l'homme, qui est un titre un peu énigmatique, qui lui permet déjà de parler de lui à la troisième personne, donc de façon un peu plus mystérieuse, et puis de mettre un peu de distance, parce que bon, même plus d'humilité d'une certaine manière, parce que dire. Pour vous montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, ça pourrait paraître un peu plus vaniteux que de dire pour vous montrer que le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Donc déjà, il y a une manière de se mettre un peu en distance. Effectivement, Fils de l'homme, c'est une manière aussi d'affirmer très clairement sa nature humaine. Et on va voir qu'il affirme aussi d'une autre manière sa nature divine. Et puis, il y a effectivement un lien très fort à l'Ancien Testament, puisqu'il y a un lien très fort avec une vision du prophète Daniel, qui dit, voilà, je vis comme un fils d'homme, mais ça peut être aussi traduit par je vis le fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel. Et donc, c'est une vision du Messie que Daniel a, d'une certaine manière. Alors, c'est intéressant, parce que le Messie, justement, a ce titre de fils d'homme, et en même temps, il vient sur les nuées du ciel, la nuée étant l'attribut de Dieu par excellence. Donc c'est une vision très énigmatique de Daniel que les Juifs n'arrivaient pas à comprendre et à interpréter, parce que évidemment, elle ne se comprend vraiment que dans la personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Mais c'était, on va dire, déjà une pierre d'attente dans le livre de Daniel, qui annonçait mystérieusement déjà cette figure du Messie, vrai Dieu et vrai homme. Et donc ce titre de fils de l'homme, là, il vient tout spécialement. Et d'une certaine manière, on peut aussi le rapprocher un peu d'Adam, puisque Adam c'est l'homme, donc fils de l'homme, Jésus se confirme aussi fils d'Adam, donc il se met aussi dans cette filiation, de se dire ce que Adam et Ève ont blessé, bien moi, le lointain fils d'Adam, je viens aussi le recréer en quelque sorte, et le guérir. Donc vous l'aurez compris, cette première partie de ce qu'on vient de lire, la guérison du lépreux, c'est le premier moyen pour le Christ, dans tout le passage qu'on va étudier ce soir, d'affirmer sa divinité, puisqu'il affirme quand même une puissance divine sur la nature corporelle, sur le corps malade et aussi sur la maladie. Donc c'est, on va voir tout de suite avec le paralysé qui va affirmer sa puissance sur un autre mal, le mal du péché, mais là pour l'instant c'est affirmer sa puissance divine à travers ce miracle sur la nature corporelle et sur la maladie corporelle. Et le fait que le Christ dise au lépreux « va se montrer au prêtre », c'est pas anodin, c'est-à-dire que le Christ respecte la loi de Moïse, donc le Christ n'est pas un hippie, ni un beatnik, ni un révolutionnaire, donc le Christ respecte la loi de Moïse. Moïse a prescrit que les lépreux qui pourraient être guéris avant de réintégrer la société devaient se montrer au prêtre pour faire constater leur guérison et puis voilà, offrir un sacrifice avant de revenir. Bon, parfois on appelait lèpre des choses qui n'étaient pas lèpre en fait, donc il y avait des guérisons parfois possibles sur certaines maladies. Donc il y avait des guérisons, mais pour ceux qui avaient été exclus de la vie sociale, il fallait d'abord se montrer au prêtre pour être réintégré. Donc le Christ, en disant à cet homme « va te montrer au prêtre », à la fois montre qu'il respecte la loi de Moïse, et bien en même temps c'est une manière aussi habile de dire va montrer au prêtre, va montrer à la synagogue, va montrer voilà, aux institutions d'Israël que je t'ai guéri, donc que j'ai cette puissance divine sur la maladie et sur les corps. Donc c'est une manière de dire, va dire à ceux qui vont être mes adversaires, que j'ai cette puissance divine. Avant de passer au paralysé, petite remarque aussi, on retrouve dans ce passage, des éléments constitutifs de nos sacrements. Dans un sacrement, la parole est efficace. La parole réalise pleinement ce qu'elle signifie. Quand le prêtre dit « je te pardonne tes péchés », ce n'est pas une prière que le prêtre adresse, c'est une parole impératif, c'est-à-dire le pardon est donné en même temps que les mots sont prononcés. Et là, on retrouve ça avec cette parole du Christ, je le veux, sois purifié, et il est purifié. Donc, c'est pas seulement une parole uniquement verbale, c'est une parole qui a une efficacité, qui a une action, qui a une puissance immédiate. C'est une parole qui réalise ce qu'elle dit, en fait. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans les sacrements.
On trouve dans la Genèse aussi, chaque fois c'est Dieu dit.
Exactement. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette efficacité de la parole de Dieu, créatrice, et qu'on retrouve dans l'efficacité des paroles de Jésus. Et ensuite dans l'efficacité des paroles sacramentelles. Et donc, comme on vient de le dire, il y a un petit parallèle. Jésus guérit le lépreux, et juste après, ça marche, nous met un autre épisode qui vient prolonger, dans la même ligne. Jésus ensuite continue d'affirmer sa puissance divine, mais plus seulement sur les corps, mais sur les cœurs. Puisque ce passage du paralysé, il ne faut pas l'appeler la guérison du paralysé, mais il faut l'appeler le pardon du paralysé. Puisque Jésus, quand ce paralysé se présente devant lui, la première chose qu'il fait, ce n'est pas de le guérir, c'est de lui dire mais mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Vous voyez, il y a un parallèle entre le lépreux guéri dans son corps et le paralysé pardonné dans son cœur. Entre la maladie qui est vaincue par le Christ et le péché qui est vaincu par le Christ. Donc à chaque fois, le Christ, mais de façon différente, dévoile sa nature divine. Et comme les pharisiens et les scribes ouais, le titillent un peu, du coup, il va le guérir. Mais il va le guérir comme un signe de la guérison spirituelle qui a eu lieu dans le cœur. C'est sûr, c'est très juste ce que dit le Christ. Oui, qu'est-ce qui est le plus facile de dire? C'est sûr que c'est facile de dire tes péchés sont pardonnés, parce que les scribes n'ont pas un microscope sur le cœur du paralysé pour voir que les péchés sont vraiment pardonnés. Mais en revanche, quand je dis lève-toi et marche, et que le gars se lève et marche, là c'est un petit peu voilà, la preuve par l'évidence que la parole que je viens de dire avant, tes péchés sont pardonnés, elle était aussi efficace que ce que je dis ensuite, lève-toi et marche. Cet évangile, on l'entend régulièrement hein, à la messe dominicale, mais c'est vraiment important, je pense, de voyant leur foi, Jésus dit aux paralysés, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Je pense qu'il ne faut pas trop s'habituer quand même à ce passage et noter quand même les choses étonnantes quand même, de l'attitude du Christ. Le Christ ne dit pas voyant sa foi. Il dit « voyant leur foi ». Donc c'est quand même un détail qui est important, c'est la communion des saints. C'est la foi des porteurs qui finalement obtient la rémission des péchés pour le paralysé. Donc il y a déjà un lien quand même entre la foi de ces porteurs, qui n'est pas une foi juste livresque, hein, elle leur fait monter sur le toit, enlever les branchages, descendre, etc. Donc c'est une foi vraiment vivante, vécue. Et c'est leur foi, c'est leur intercession très très concrète qui fait que le Christ, eh bien, alors là aussi, deuxième surprise, ne lui dit pas « sois guéri », mais « tes péchés sont pardonnés ». Donc cette primauté aussi du pardon des péchés. Ouais. Le premier cadeau que Dieu nous fait, c'est d'abord le pardon des péchés. Et ouais, si on ne le prie que pour des bienfaits temporels, matériels, même de guérison physique, est-ce qu'on ne passe pas à côté du plus essentiel? Est-ce qu'on ne passe pas à côté, finalement, de ceux qui intéressent d'abord le Christ, parce que c'est ça qui est le plus important aussi pour nous, à savoir la rémission des péchés?
Et le porteur, en fait, n'agisse pas pour eux, mais il agisse pour le paralytique, c'est pour le prochain.
Ouais, il y a vraiment une grande générosité. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment effacés.
L'assemblée qui qui écoute Jésus et puis d'autres qui sont vraiment en action à deux fois. Et finalement, ils font super, ils dos, ils descendent, ils trouvent un moyen. Et en fait,
ils sans rien demander pour eux.
Ils sans rien demander pour eux.
C'est aussi pour nous important de réfléchir si je demande telle guérison alors que je ne vais pas me confesser, est-ce que vraiment je mets les choses dans le bon ordre? Si vraiment je suis attaché à ce que le bon Dieu m'obtienne la guérison de mon genou ou de mon rein. Qu'en revanche, la maladie du péché qui est dans mon cœur, je m'en fiche complètement de laisser ce cancer du péché prospérer dans mon cœur, et alors que je pourrais très bien l'ôter très facilement par une confession, est-ce que vraiment j'ai saisi où était l'essentiel? Et ce texte nous aide justement à saisir l'essentiel. Et puis, très beau aussi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite, hein, mon enfant. Cet homme qui est peut-être plus âgé que le Christ, mais le Christ, en tant que sauveur, a cette paternité, a cette bonté paternelle, et c'est là où, justement, je pense que ça tue aussi la traduction de Jean-Paul sur le courroucé au lieu de prise de compassion, parce que on voit justement cette continuité de la compassion à travers les différentes scènes qu'on va lire, compassion à l'égard du lépreux, et puis cette compassion paternelle à l'égard aussi de se paralyser. C'est vraiment une ligne directrice, je pense. Est-ce que vous aviez des questions?
Juste après.
Juste après, allons-y.
En fait, je ne comprends pas très bien la logique de Jésus.
Ah. Ça tombe bien, parce que je ne suis pas là dans ce moment.
Il n'y a rien du tout.
S'ils
ne croient pas à Jésus et Messie, ils ont raison, parce qu'ils vous disent la fête.
Oui.
Voilà. Et là-dessus, Jésus dit, mais pourquoi vous raisonnez comme ça? Parce qu'il raisonne juste quelque part. D'après eux, il raisonne juste. Il a dit, mais pourquoi vous raisonnez comme ça? Et en fait, comme ils ne croient pas que c'est le Messie, ils raisonnent juste. Donc, et là-dessus, ils partent sur le fait. Est-ce que c'est plus facile de pardonner les péchés ou dire à quelqu'un laisse-toi marche? Je ne vois pas en fait pourquoi il parle. Il parle de effectivement le pardon des péchés sur en fait une organisation. C'est clair.
En fait, si Jésus sortait juste de Nazareth. De Nazareth, il va à la synagogue, il n'a jamais fait aucun miracle de toute sa vie, il a été un humble charpentier à Nazareth, il arrive dans une synagogue devant les scribes et les pharisiens, et voyant quelqu'un, il dit « tes péchés sont pardonnés ». C'est sûr que dans ce cas-là, les scribes auraient tout à fait raison de dire « mais cet homme blasphème ». En revanche, après tous les miracles que Jésus a déjà fait, les démons qu'il a combattus, que les scribes ferment tout de suite la porte et ne laissent même pas la question ouverte de se dire cet homme dit qu'il pardonne les péchés, deux hypothèses. Ou bien voilà, il y a un mystère chez lui, il a un lien spécial avec la divinité, on peut peut-être pas effectivement envisager qu'il se dise, oui, il est Dieu n'est de Dieu, lumière n'est de la lumière, bon, c'est pas leur demander de réciter le credo, mais ils peuvent au moins laisser l'hypothèse ouverte, soit effectivement ils ferment l'hypothèse en disant cet homme blasphème. Mais là, ils ne laissent même pas la chose ouverte. Ils vont directement sur, seul Dieu peut remettre les péchés. Or, Jésus dit qu'il remet les péchés, donc Jésus blasphème. Mais il y a un truc qui est sous-entendu, c'est « Or, il est clair que Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'a pas de lien avec Dieu, qu'il n'a pas de mystère en lui. » Et c'est ça, c'est sous-entendu, en fait. Et du coup, il le condamne d'emblée pour blasphème, sans laisser cette porte ouverte. Alors que normalement, si vraiment ils avaient une certaine franchise, une certaine honnêteté, vu tous les signes que Jésus a déjà posés, qu'on pense à ce qui s'est passé au Jourdain, je pense que les choses sont quand même arrivées jusqu'à Capharnaüm, enfin, on a sans doute parlé de ce qui s'était passé lors de son baptême, de ce qui s'était passé lors des guérisons, lors des combats contre le démon, lors de la guérison de ce lépreux. Tout ça devrait au moins les inciter à au moins suspendre leur jugement et à dire qu'est-ce qu'il dit là, mais pas forcément aller sur l'affaire est entendue, c'est un blasphémateur, on ferme le banc.
Parce que la guérison, en fait, une maladie, quelqu'un d'humain peut l'avoir. C'est pour cela qu'après, il dit est-ce que c'est ouais. Passé. Donc, la guérison, en fait, d'un paralytique, ça, quelqu'un peut
le voir. Le raisonnement du Christ, c'est de dire effectivement, vous contestez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés en disant que ce que je dis ne sont que des mots, et en plus des mots blasphématoires. Eh bien, moi, je vais vous donner un autre mot dont vous verrez immédiatement l'efficacité visible, c'est lève-toi et marche.
Qui cherchent déjà des motifs pour le condamner.
Enfin, oui.
Dans leur cœur, déjà, je pense qu'ils ont déjà cette volonté de trouver un motif, enfin, des motifs pour condamner Jésus.
C'est ce qu'on va voir effectivement quelques lignes plus loin.
Ça commence peut-être déjà.
Voilà, quand il revient ensuite à la synagogue de Capharnaüm, Saint Marc nous dit qu'il l'observait cherchant des motifs pour l'accuser. C'est-à-dire que le procès de Jésus a déjà commencé, en fait. Et là, on est un petit peu. On est un petit peu dans ce cas-là, parce que on va pas faire l'ego, on va pas dire oui, nous à la place des scribes, on aurait tout de suite compris que c'était le Fils de Dieu, et c'est incompréhensible, vraiment ils sont totalement aveugles, c'est pour scribes. bien sûr qu'on ne dit pas ça. Mais on dit, est-ce que les scribes, comme Nicodème, ne pouvaient pas aller le voir de nuit, lui essayer de le tirer un peu par le manteau et lui dire, explique-nous, dis-nous qui tu es. Enfin voilà, on est déboussolé. On voit tous les signes que tu accomplis, qui attestent que tu viens de Dieu, et en même temps, tes paroles sont tellement déconcertantes, tellement désarçonnantes. Dis-nous. Mais ils ne font pas ça. On n'attend pas à ce qu'ils se mettent à genoux, qu'ils récitent le credo. Mais au moins, qu'ils aillent vers le Christ pour lui demander, pour lui dire, parce que ce qu'on lui dit tous dans la prière, bien souvent, on est dans les ténèbres, éclaire-nous. Et ce n'est pas ça qu'ils font. Ils disent, on a notre propre lumière, et au nom de cette lumière, il est déjà condamné.
J'ai toujours trouvé qu'il y avait vraiment quand même un peu de provocation de la part de Jésus, et que finalement, de toute façon, il savait très bien, comme il avait des scribes et des pharisiens, il savait très bien qu'il y aurait une réaction violente à sa mort. Hein, donc, pour moi, il y a toujours un peu, toujours un peu dans cet évangile, un peu une provocation, on va voir jusqu'où.
Oui, mais.
Et puis, comment ils vont réagir, et puis.
Mais après, le groupe des pharisiens n'est pas monolithique. Il y a des pharisiens qui suivront le Christ. Donc,
oui, tout à fait.
Donc, je dirais, c'est aussi pour ces pharisiens-là que le Christ parle. Parce que s'il s'interdisait de dire ce qu'il a à dire en disant si je le dis, ça va froisser les pharisiens, ça va faire naître en eux la haine. En tout cas, il ne pourrait plus rien dire. Alors qu'il adopte en plus une manière d'annoncer sa divinité qui est assez délicate. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas non plus en disant « je suis le fils de Dieu ». Il pose des signes et puis avec ces signes, il donne des paroles. Mais après, c'est à chacun, comme je disais un petit peu, c'est à chacun d'essayer de comprendre de la portée de ces signes, comment c'est compatible avec ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et c'est justement, ça laisse l'auditeur très, très libre de cheminer avec la grâce de Dieu pour arriver justement à l'acte de foi. Mm-hmm. Donc on ne peut pas dire que non plus le Christ soit très violent, ou en tout cas, il n'est pas inutilement violent.
Oui.
Mais on verra, effectivement, si on y arrive, que dans la synagogue, il les observe promenant sur eux un regard de colère. C'est sûr qu'il y a une colère du Christ, c'est-à-dire qu'il y a quand même une ardeur du Christ qui ne supporte pas que ces pharisiens confisquent la parole de Dieu, la détournent et entraînent les autres vers l'erreur, alors que normalement, ils sont privilégiés, ils ont été plus gâtés, ils devraient être les premiers à reconnaître le Christ. Et c'est vrai qu'il y a... Ouais, je pense qu'on a aussi à faire un examen nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a quand même une virulence du Christ contre les hommes religieux qui n'est pas... qu'il ne faut pas passer comme ça trop vite. C'est-à-dire que il y a toujours ce danger, quand on est religieux, de faire de la grâce gratuite notre bien et de faire de la grâce, qui est un don gratuit de Dieu, une espèce de piédestal sur lequel on monte pour juger les autres. Ça, cette attitude-là, effectivement, le Christ la condamne de façon extrêmement virulente. Et je pense que c'est un des péchés, le péché du jugement, qui est sans doute le plus pris à partie par le Christ.
Il y a la compassion du Christ, mais de l'autre côté, il y a aussi la radicalité du message.
Oui,
c'est vrai qu'il faut tenir les deux bouts. Vraiment, c'est peut-être le changement d'attitude des fois de Jésus par rapport à une personne, ou des fois c'est plutôt la radicalité du message qu'on apporte, d'autres fois c'est plutôt la compassion.
Et le Christ ne peut pas faire œuvre de compassion avec des cœurs qui sont radicalement fermés. En fait. C'est-à-dire que le Christ aimerait être compatir avec les pharisiens. Mais les pharisiens lui opposent vraiment un mur. Quoi. Parce que le Christ est radical aussi avec les pécheurs, comme il est radical avec les pharisiens. Il dit aux pécheurs, va, ne pêche plus, il n'y a pas une super bonne journée. Donc il y a une radicalité, effectivement, de la miséricorde, Mais là, cette mise à l'écart, en quelque sorte, est mise en échec par la dureté et l'orgueil des pharisiens. Et justement, si j'avais voulu lire jusqu'à la parabole des outres neuves et du vin nouveau, c'est que cette parabole placée au cœur de ce que nous lisons aujourd'hui, parce que normalement on devrait aller jusqu'aux 10 premiers versets du chapitre 3, si on voulait faire toute la partie de façon intégrale, et donc cette parabole, elle est vraiment placée au cœur de notre partie, parce que c'est elle qui éclaire tout, en fait, c'est le Christ dit que son message est radicalement nouveau, et que parce que qu'un homme fasse les signes qu'il fait, qu'un homme ait cette puissance divine qu'il a, que cet homme soit le Fils de Dieu, c'est évidemment radicalement nouveau. Et cette radicalité nouvelle, ce message totalement nouveau, ne peut être accueilli que dans une mentalité, elle aussi, renouvelée. Et donc, le Christ met en garde finalement contre les préjugés, pas seulement des pharisiens, mais un peu de tous les juifs, sur les idées préconçues qu'ils avaient du Messie, en disant, mais voilà, il faudra accueillir cette nouveauté dans des âmes renouvelées. Ça ne veut pas dire que le Christ dit, il faut que vous soyez absolument prêts, que vous ayez tout compris, etc., mais au moins, comme disait Paul Descrives, au moins que vous soyez ouverts à cette nouveauté. Et que vous soyez ouverts au nom des signes que je fais, au nom de l'autorité que j'ai lorsque je parle, que vous soyez ouverts à ce mystère dans lequel je veux vous entraîner. C'est-à-dire, le Christ n'envisage pas que tout le monde soit là, oui, j'ai tout compris, donne-nous ton mystère, je suis fils de Dieu, ah oui, très bien, voilà. Mais au moins que les âmes disent, on ne comprend pas, mais on te fait confiance, guide-nous dans la vérité. Comme Saint-Pierre, parce que tout le monde est très déboussolé à Capharnaüm après le discours du pain de vie, et que Jésus se tourne vers les douze, vous aussi, vous voulez me quitter, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Saint-Pierre ne dit pas, j'ai compris. Il n'a sans doute pas compris le discours du pain de vie. Mais il a compris au moins une chose, c'est que le Christ est ce guide vers la vérité, qu'il est celui qu'il faut suivre pour aller vers la vie éternelle. C'est cette disposition d'âme, en fait, que le Christ demande lorsqu'il parle du vêtement nouveau, du vêtement ancien, du vin nouveau, du vin ancien. Voilà, je viens apporter un message dont je sais qu'il est nouveau, même si évidemment il est déjà annoncé de façon mystérieuse dans l'Ancien Testament, mais il est quand même très nouveau par rapport à la mentalité du temps. Eh bien, voilà, essayez de l'accueillir dans cette mentalité ouverte. C'est ça le sens de cette parabole.
Aussi une certaine façon l'Esprit Saint en demande. Parce que l'Esprit Saint, il peut vous changer. Oui,
bien sûr.
Pour les juifs, c'est totalement. L'Esprit Saint, il n'existe pas pour eux, je pense.
Pas en tant que troisième personne de la Sainte Trinité, mais il y a déjà des annonces dans l'Ancien Testament de l'Esprit de Dieu, dont on ne sait pas trop s'il est Dieu lui-même, s'il est autre que Dieu. Voilà, il y a toutes ces annonces très voilées de la Sainte Trinité, mais c'est sûr qu'il y a. Ouais, comme on le disait tout à l'heure, pour la plupart des Juifs de l'époque de Jésus, ils attendent un Messie qui viendra récompenser les bons, châtier les méchants, et élever Israël au-dessus de tous les peuples. C'est grosso modo le programme principal. Là, le Christ va à la table des publicains et des pécheurs, c'était pas vraiment inscrit au programme. Donc c'est pour ça que, effectivement, il y a une dimension, on pourrait dire, de provocation, mais simplement une dimension de vérité. Ben, le Christ fait la vérité de sa mission. Il y aura une deuxième venue de Jésus où là, effectivement, ce sera une venue de justice pour récompenser les bons et châtier les méchants. Mais la première venue, c'est une venue de miséricorde. Et c'est là où le Christ dit, ben, voilà, c'est nouveau, c'est peut-être inattendu, même si c'était annoncé les passages où c'était annoncé, vous les avez mis de côté, vous n'en avez gardé que certains autres. Qui du coup font que vous n'êtes pas du tout préparé à ma venue, mais laissez-vous guider, laissez-vous préparer par ce que je fais, parce que je fais des signes qui attestent que je suis le Messie et le Fils de Dieu. Alors soit on s'arrête, Soit on termine. Non, non. Non mais soit on s'arrête là et on va faire oraison, et voilà, soit on termine la partie avec le sabbat. Ah si, si, on fait oraison après, mais on se couche un quart d'heure plus tard. Ça nous termine. Un jour de sabbat, donc nous sommes au verset 23, un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiathar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. » Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Méditer ce texte. Donc, je pense qu'à la lumière de ce qu'on a dit, vous aurez compris dans quelle continuité se place ce texte. Jésus affirme sa puissance divine en étant maître des corps guérissant la maladie. Jésus affirme sa puissance divine en étant maître des cœurs, en guérissant les péchés. Et là, Jésus, avec le passage des épis arrachés, s'affirme comme maître des institutions d'Israël, et notamment de celle qui était la plus sacrée d'entre toutes, maître du sabbat. Donc, de nouveau, affirmation de sa puissance divine, parce que là, celui qui est maître du sabbat, c'est Dieu qui a institué le sabbat et qui, d'une certaine manière, même l'a vécu, puisque Dieu se reposa au septième jour de son œuvre créatrice. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pharisiens ne reprochent pas aux disciples d'arracher des épis dans un champ qui n'est pas à eux. On pourrait dire, ils sont les défenseurs de la propriété privée, ils sont anticommunistes, c'est très bien. Les pharisiens remontent dans notre estime, du coup. Mais, non, en fait, c'est permis dans la loi du Deutéronome, quand tu passes dans le champ de ton voisin, tu pourras arracher les épis avec ta main, mais ne pas te servir de la faucille. C'est-à-dire, en gros, tu pourras te servir de ce que tu peux avoir dans la main pour manger. Il y a la même pour la vigne. Tu pourras passer dans la vigne de ton prochain et prendre dans ta main, mais tu n'auras pas le droit de passer avec un panier, parce que pas non plus il y aura ciboisé sous ton raisin. Voilà. Donc, c'est pas du tout le fait d'arracher des épis dans un champ qui n'est pas à eux. Voilà, saint Matthieu le dit, saint Marc ne le dit pas, mais les apôtres ont faim, ils passent dans un champ, voilà, il y a des épis, donc ils en prennent un peu, ils mangent. Mais ce que les pharisiens reprochent, c'est que dans leur vision extrêmement légaliste, où ils avaient hypertrophié la loi de Dieu, même cette action-là était considérée comme un travail de moissonnage ou d'arrachage. Mais voilà l'exemple de l'agriculteur qui vient vraiment travailler dans son champ. Donc, c'était une précision qui n'était pas dans la loi de Dieu. Effectivement, Dieu dit que le jour du sabbat, on ne travaille pas. Mais Dieu ne dit pas que prendre quelques épis comme ça en passant, c'est du travail. Mais les pharisiens, ouais, qui voulaient en remettre encore au-dessus de la loi de Dieu, qui voulaient mettre la barre encore plus haut que Dieu l'avait mise, et puis qui sont très contents de trouver un reproche à faire à Jésus et à ses apôtres, sauf sur l'occasion. Et Jésus répond par une double phrase qui est très belle. L'homme, voilà, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Cette phrase, elle vaut pour tout le monde. Elle ne vaut pas que pour le Christ. C'est une manière de dire, voilà, l'homme n'est pas fait pour une application étroite, pesante, lourde de la loi, et le sabbat n'est pas fait pour mettre l'homme en esclavage. Au contraire, le sabbat est là pour libérer l'homme, pour justement que l'homme ne soit pas soumis à la tyrannie d'un travail qu'il ferait chaque jour, et un travail tellement tyrannique qu'il empêcherait d'élever son âme vers Dieu. Donc, au contraire, le sabbat est là pour libérer l'homme de la servitude que peut comporter le travail, qui a beaucoup de points positifs, mais qui peut devenir aussi négatif. Donc c'est fait pour libérer l'homme de ce qui pourrait devenir un asservissement si l'homme travaillait 7 jours sur 7, pour que son âme libérée se repose en Dieu. Et donc Jésus dit, ouais, c'est ça le sens du sabbat. Le sabbat n'est pas là pour contraindre l'homme, pour faire peser sur lui encore des obligations pénibles. Donc Jésus redonne à la loi tout son sens, et ça vaut pour tout le monde. Mais la deuxième phrase, en revanche, ne vaut que pour lui-même. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et ça, c'est profond. Parce que ça veut dire, de même que Dieu a dispensé les Lévites du sabbat, parce que les Lévites servent le jour du sabbat, parce que Dieu est maître du sabbat, et que servir Dieu le jour du sabbat, c'est plus grand que de respecter le sabbat. De même que Dieu a dispensé les Lévites du sabbat, eh bien moi je dispense mes apôtres de la règle du sabbat. Parce que mes apôtres sont en mission. Ils me servent, moi qui suis Dieu. Et donc, ils sont comme des Lévites. Ils sont dispensés du sabbat. C'est très puissant. Alors ça, on le voit qu'avec un parallèle avec saint Matthieu et saint Luc, où c'est plus explicite, mais c'est ça en fait qu'il y a. Le premier verset, il est pour tout le monde. Voilà. C'est quoi? Pour tout le monde, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et le deuxième verset dit, ah, non seulement mes apôtres sont libres parce qu'ils sont des hommes, ils sont doublement libres par rapport aux obligations du sabbat, parce qu'ils sont mes serviteurs, qu'ils sont en mission, et donc ils sont comme des Lévites, dispensés de la loi du sabbat. C'est assez puissant. Et on termine par ce qui est l'apogée de la confrontation dans cette partie, entre Jésus et les pharisiens. Là, on a une espèce d'opposition chimiquement pure à la synagogue. Pourquoi chimiquement pure? Parce que on ne parle pas des disciples, on ne parle pas de la foule. Sama, c'est une espèce de... Là, on pourrait faire un film, en fait, c'est un peu comme... Voilà, il y a le projecteur qui se braque sur le Christ, le projecteur qui se braque sur ceux que Sama appelle « on », « eux », il les nomme même pas tellement, c'est les opposants à Jésus. Et au milieu du ring, il y a cet homme que le Christ va appeler, voilà, au milieu, qui est un petit peu la cause du conflit, cet homme à la main atrophiée. Et comme on disait tout à l'heure à propos des scribes, c'est déjà le procès de Jésus qui commence. Il est déjà condamné. Mais on cherche juste, voilà, sur quoi on pourrait étayer l'accusation et la condamnation. Et sur quoi on étaye la condamnation, c'est quand même assez fort, sur la bonté de Jésus. Est-ce que vraiment il va le guérir? Est-ce que vraiment il va être bon et miséricordieux au point de le guérir le jour du sabbat?
Il va le guérir le jour du sabbat. Regarde, il l'a fait.
C'est quand même fou. Il cherche, pour l'accuser, à le prendre par sa bonté et sa miséricorde. Et là où on voit que vraiment l'évangile est écrit par l'Esprit Saint, c'est qu'il y a en fait un jeu de parallèles extrêmement bien ficelé, qui va nous mettre au cœur de toute la mission de Jésus, au cœur de toute cette confrontation entre Jésus et les pharisiens. Verset 1, Jésus entra. Verset 6, une fois sorti. À la fin du verset 1, la main de cet homme était atrophiée. À la fin du verset 5, donc presque au verset 6, sa main redevint normale. Verset 2, on observait Jésus avec des regards aiguisés comme des couteaux. pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Au début du verset 5, alors Jésus, promenant sur eux un regard de colère et en même temps de colère navrée. Ce n'est pas une colère haineuse, ce n'est pas une colère d'accusation, de haine, c'est une colère navrée devant l'endurcissement de leur cœur. Jésus entra, ils sortirent. La main est atrophiée, la main est normale. Ils regardent, Jésus regarde. Et puis, au milieu, lève-toi, viens au milieu. C'est pas trop mieux quand même. Lève-toi, viens au milieu. Et ce qu'il y a ensuite après, et qui est finalement le cœur de toute la confrontation, la question de Jésus, le silence des autres. Et entre cette question et ce silence, on est vraiment au cœur. Est-ce qu'on peut faire le bien ou le mal? Est-ce qu'on est là pour sauver des vies ou les tuer? Et finalement, on est là au cœur du message de salut de Jésus qui vient faire le bien, détruire le mal, donner la vie et non pas la prendre, contrairement à ce que font les pharisiens qui prennent pas, ainsi qui veulent prendre la vie corporelle du Christ à la fin du passage, mais surtout qui viennent prendre des vies spirituelles, puisque leur manière si étroite, si pesante, si orgueilleuse de concevoir la parole de Dieu, finalement, tue les âmes, tue leur âme et tue les âmes de leurs disciples. Et donc, voyez, à travers ce jeu de petits parallélismes, à travers toute cette scène, eh bien, on est placé, finalement, devant la question fondamentale de toute notre vie, de la vie du Christ, de la vie des pharisiens. Qu'est-ce qu'on choisit? Faire le bien, faire le mal, donner la vie ou la prendre.
L'esprit ou le texte. S'il vous plaît, quand les pharisiens ils disent que Dieu seul peut pardonner les péchés, s'ils le pensent vraiment, est-ce que Yahvé pardonne les péchés dans, chez les juifs ou ça se commence par. Est-ce qu'ils veulent plutôt dire. Les pêcheurs doivent être accablés, les pêcheurs doivent être jugés par les scribes ou par les pharisiens.
Non, ils n'ont pas forcément une vision très claire de la manière dont Dieu pardonne les péchés. C'est-à-dire que ils n'ont pas une vision très claire de à qui Dieu pardonne, comment Dieu pardonne. Mais en revanche, ce qui est très clair pour eux, c'est que Dieu étant l'offensé, il est le seul à pouvoir lever l'offense. Et c'est vrai que voilà, dans un certain nombre de passages de l'Ancien Testament, on proclame la miséricorde de Dieu. Et dans un certain nombre de passages des psaumes, l'homme se reconnaît pécheur et présente à Dieu son péché. On peut penser donc au psaume 50 que David lorsqu'il se rend compte du péché qu'il a commis en couchant avec Bathsabée et en faisant tuer Uri. Et donc, voilà, il dit à Dieu, voilà, ayez pitié de moi parce que je suis un pécheur. Renouvelle en mon cœur un esprit nouveau. Donc, il y a cette conscience quand même que Dieu a le pouvoir, parce qu'il est tout puissant, de remettre les péchés. Ça, c'est vrai dans l'Ancien Testament. Mais à qui Dieu les remet, comment Dieu les remet, ça, c'est déjà plus flou. Parce que, par exemple, si on pose la question aux pharisiens, est-ce que vraiment Dieu peut remettre les péchés à Lévi, au publicain, au collecteur d'impôts, ils diront non. Donc c'est... Voilà, c'est... Il y a quand même cette foi dans la puissance miséricordieuse de Dieu, mais comment elle se réalise? Ben, finalement, il faut attendre Jésus pour comprendre finalement qu'elle s'adresse à tous, et puis qu'elle passe par la croix, et qu'ensuite elle passe par les sacrements.
Est-ce qu'il ne fallait pas aussi, chez les Juifs, ou même maintenant, offrir quelque chose pour se faire pardonner de ses péchés? Et les sacrifices d'animaux, tout ça.
Oui, c'est sûr que les sacrifices étaient une manière imparfaite, rituelle, de recevoir une forme de pardon des péchés. C'est sûr qu'il y avait
sur le feu pour que...
Ou imposer ses mains sur la bête pour faire une espèce de transfert de sa culpabilité sur la bête. Et une fois que la bête est immolée et détruite, c'est en quelque sorte le péché qui est détruit. Ou le bouc émissaire qu'on envoie mourir dans le désert, hein, qu'on qu'on redonne d'une certaine manière au démon après l'avoir chargé de ses fautes. Mais il y avait effectivement ces annonces de rémission, de pardon des péchés, mais je pense que les Juifs avaient aussi conscience que tout ça était...